de terminer cette courte, trop courte méditation sur l'Eucharistie à partir de la révélation de la Bible. Et je voudrais, je vous ai dit que ce serait bien de regarder ce que dit Saint Thomas d'Aquin sur l'Eucharistie. Et Saint Thomas, vous comprenez, dit beaucoup de choses sur l'Eucharistie. C'est évident. Vous voyez, ici, nous avons ici la table des matières de ce qu'il dit sur les questions qu'il traite sur l'Eucharistie. Il y a tout ça, table des matières. Ça, c'est la table des matières. Ça et ça. Pardon, et ça. On est bien que... Et comme nous avons pris le thème de l'Eucharistie à travers le point de vue de la Bible, eh bien je vais prendre uniquement ce que saint Thomas dit de l'Eucharistie à partir de la Bible. Autant respecter, quoi. Et notre thème, puis on va essayer de parler. C'est pour voir que tout ce que dit, au fond, le magistère de l'Église, vient uniquement de l'Écriture. Et tout ce qui est dans l'Écriture vient de ce que Jésus a enseigné aux apôtres par voie orale, qu'ils ont gardé. Il y a une espèce d'immense espace, gardé, par les saints, par Marie. Puis ça s'est planté dans l'Écriture. Mais l'enseignement oral sorti de la bouche de Jésus, du Verbe de Dieu, à travers les prophètes, et de l'Esprit Saint à travers justement tous les inspirés, qui est dans l'Écriture, est gardé dans ce que nous essayons de vivre. L'Esprit Saint nous le rappelle tout le temps, à travers le magistère. Et saint Thomas d'Aquin nous fait comprendre ça tout de suite dès qu'on rentre dans saint Thomas d'Aquin. Il faut aimer saint Thomas d'Aquin. Mais enfin, quand même, un petit peu avant, puisqu'il y avait cette structure par 5, j'ai voulu noter ici ce qu'il dit dans la tertia pars, question 73, ainsi que dans la question 79. C'est que l'Eucharistie a trois noms. On dit que l'Eucharistie a trois noms. En même temps que je vous le dise carrément. Sacrifice, sacrificium vel hostia. C'est l'hostie, le sacrifice. Jésus est une hostie vivante, c'est le sacrifice. Oui. Le sacrifice, je vous rappelle, c'est par rapport à Abraham. C'est une hostie vivante. Jésus hostie. Communio vel synaxis. C'est la communion ou la synaxe. Le rassemblement. Communion ou synaxe. Nous nous rassemblons tous et nous nourrir la communion ou la synaxe. Ça va? Eucharistia. Eucharistie. Viaticum. Le viatique. Le viatique, c'est que nous sommes en pèlerinage. Vous voyez, sortons. Et puis il faut dire enfin missa, la messe. C'est le Père qui envoie son Fils. Et il envoie son Fils avec une tellement grande force en nous que du coup on est projeté dans le monde. On est envoyé. Ça fait, vous savez, tac. Le Père envoie son Fils en nous, le Fils envoie l'Esprit Saint, et du coup, on est envoyé dans le monde. Et l'Eucharistie, c'est l'envoi de personne dans le monde. Missa. La messe. pensée, en fait. Une pensée. Hein? Oui. Elle est élastique. Choc. Voilà. Alors, bon, c'est intéressant parce que dans ce qu'il dit sur les noms, hein, mais ça c'est. Bon, c'était pour reprendre donc ici tout ce qu'on disait à travers donc la Genèse, l'Exode et le livre des rois. Alors, ah oui, alors il y a une deuxième chose quand même avant de revenir à l'écriture, il y a quand même une deuxième chose que je voudrais quand même vous dire. C'est le truc très très important, hein, pour quand même. C'est ce que dit saint Augustin à propos de l'Eucharistie, que reprend du reste saint Thomas d'Aquin, et à partir de là, on va revenir. C'est que l'Eucharistie est un sacrement. C'est un sacrement. Et dans le sacrement, vous comprenez bien que le sacrement implique qu'il y a une matière et une forme. Ça, on commence à le savoir. Puisque c'est normal. Les sacrements renouvellent le fait que le Verbe, Dieu, s'est fait homme, s'est fait chair. Il a saisi la matière dans sa personne pour récapituler toute la création par l'amour. Le Verbe s'est fait chair. Dieu s'est fait matière, si je puis dire. L'immatériel s'est fait matière. Faire une seule réalité. Vous voyez ? Eh bien, les sacrements reproduisent cela. La réincarnation, c'est les sacrements. C'est pour ça que quelqu'un qui refuse le fond des sacrements, il va être un petit peu tenté par toutes les doctrines de spiritualité et d'inspiration réincarnationniste. Puisque la véritable réincarnation, c'est les sacrements. Refuser l'Eucharistie, c'est un petit peu se mettre. Alors, à partir de là, réalité des sacrements va impliquer, d'après saint Augustin, un certain nombre de choses pour l'Eucharistie. C'est qu'il va dire, voilà, dans l'Eucharistie, il y a trois moments. Il y a, je vais vous le dire, bien compliqué pour que vous puissiez rien comprendre. Et saint Augustin, pour ça, il est terrible. Il dit dans le sacrement, il y a l'Eucharistie, avant même que l'Eucharistie, la synaxe, le sacrifice, l'hostie, la messe aient commencé. Avant même, j'allais dire, quand on lit l'Évangile, la parole de Dieu, il n'y a toujours pas. Les hosties, ni le pain, ni le vin, rien, on s'en occupe même pas. Et il y a res et signum. Res et signum. Dans un deuxième temps, il va y avoir res. Et sacramentum, et puis ensuite il va y avoir, je m'excuse du latin, ça fait rien, il va y avoir la res tantum. Alors, maintenant je vais expliquer, évidemment, puisque vous n'êtes pas né à Rome en l'an 50 avant Jésus-Christ, vous ne connaissez pas, je ne sais pas ce que ça veut dire tout ça. Donc la res et signum, c'est quoi? C'est que ce qui est avant l'Eucharistie et qui est déjà l'Eucharistie. C'est ce qui se mange, et quand Dieu est réellement reste, c'est réellement Dieu qui se mange, la parole de Dieu. Ça, on commence par la parole de Dieu. Il faut d'abord se nourrir de la parole de Dieu. Ce que nous avons fait pendant 3 jours. Nous avons essayé de rentrer dans la parole de Dieu pour nous nourrir eucharistiquement de la parole de Dieu. Et pour du coup comprendre ce que c'est que l'Eucharistie qui se mange. Et que du coup le Père, c'est ce qu'il fait, il mange et il dévore éternellement le Verbe. Hein? C'est comme ça là où on en était arrivé. Hein? compris ça à travers cette espèce de long cheminement. Et puis, c'est à travers quelque chose de visible pour nous, à travers la parole de Dieu, à travers le fait que l'on essaye de vivre du mieux qu'on peut, à travers nos bêtises, nos faiblesses, on est immensément loin et en même temps immensément proche, parce que... Alors, il y a le signe. Dans, au fond, l'Eucharistie, il y a le signe. Et le signe apparaît, et encore d'une manière très extraordinaire, à travers le pain et le la matière du sacrement. C'est symbolique, le pain et le vin. Mais vous avez vu tout ce qu'il y avait derrière le pain et le vin. Et puis, il va y avoir canon, offertoire, préface, canon, transsubstantiation, consécration. Et il va y avoir la réalité divine va se présenter dans le sacrement. C'est-à-dire que la forme, il n'y a plus le signe du pain et du vin, est transformée en sacrement. La forme a saisi la matière, il y a une transsubstantiation, et Dieu reste la réalité divine, et cette fois-ci présente substantiellement dans le signe. C'est pour ça que ce n'est plus un signe, ça devient un sacrement. Et plus du pain et du vin, c'est un sacrement. Et puis, après, vous en nourrissez, le sacrement, le signe disparaît complètement, pour le coup. Vous voyez plus de pain et du vin, il en est terminé. Le signe a complètement disparu. Il ne reste plus que le sacramentum tantum, c'est-à-dire vous êtes en train de le digérer, il n'y a plus que le sacrement. Ça, c'est ce qu'on appelle la communion. Sacramentum tantum. Tantum, ça veut dire uniquement. Avec la reste dedans, la réalité divine est dedans. Et puis, avec la digestion, un quart d'heure après, le sacrement lui-même disparaît. Vous voyez, puisqu'il est digéré. Il n'y a plus de sacrement. Qu'est-ce qui reste ? La reste. Et l'essentiel de l'Eucharistie, c'est de faire qu'il n'y ait plus la reste. Qu'est-ce que c'est que la reste ? Vous voyez, toute la foi dans l'Eucharistie, c'est d'aller dans la synapse, dans le repas, dans le sacrifice, dans le passage du temps à l'éternité, de l'éternité au temps, dans cette action de grâce, dans le mystère de la très sainte, dans ce mystère, dans ce caractère substantiel du sacrement, et du mystère, des mystères, pour le Saint des Saints, pour qu'il n'y ait plus que la restantum de l'Eucharistie. Qu'est-ce que c'est que la restantum ? C'est quoi la restantum de l'Eucharistie ? Tout ça, c'est ça, la mystique sacramentelle chrétienne. Vous voyez ? Ça veut dire quoi ? Au moins rapidement, parce que ça veut dire que quand tu communies, bon, tu vas à la messe. Il faut quand même que tu disposes. Il faut quand même que tu sois un petit peu, tu sois nourri de la parole de Dieu. Vous voyez, une noce de Cana. Il faut que tu remplisses les jarres d'eau. 600 litres. Il faut que tu remplisses les jarres d'eau. Normalement, c'est pour la purification. C'est pour, c'est liturgique. Il faut que tu te nourrisses de la parole de Dieu. Il faut que tu fasses horizon. Il faut que tu aies vie de la charité fraternelle. Il faut que tu, etc. Il faut que tu remplisses d'eau les jarres. Mais sinon, alors Dieu est là, tu es un bon serviteur, tu te retrouves à la synaxe. La synaxe, c'est ce qu'on se rassemble pour se nourrir de la véritable nourriture. Le sacrement est là, saisit le pain et le vin, c'est-à-dire tout le travail qu'on a fait, comme je vous ai dit, tout le travail qu'on a fait est saisi par la transsubstantiation et transformé dans le travail du crucifié, ressuscité, réellement. Je m'en nourris. Troisièmement, à la communion. Puis il disparaît sacramentellement. Il reste quoi ? Donc, vous voyez, au point de vue divin, tout ce que nous vivons n'a de signification que par rapport au fruit, que par rapport à la finalité.
le bien de l'Eucharistie, c'est la fin. Et la fin, c'est ce qui reste lorsqu'il n'y a plus d'Eucharistie. C'est prodigieux, vous comprenez. Autrement dit, vous voyez, quand vous avez communié, vous avez cette réalité extraordinaire de Jésus crucifié et glorifié à travers vous. Et puis, avec la digestion, les espèces sacramentales disparaissent, puisque c'est digéré. Et Jésus n'est présent réellement que dans la mesure où il y a les espèces sacramentaires. Vous supprimez la matière, il n'y a plus de sacrement. La matière, c'est les apparences du pain et du vin. Mais quand vous digérez, les apparences du pain et du vin disparaissent. Hein ? D'accord. Ça n'a plus l'apparence du pain et du vin, ça se transforme en globule blanc, en globule rouge, c'est plus l'apparence du pain et du vin. Et donc, ça commence. Alors, il reste quoi ? Vous voyez ce que disait Jésus ? Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. C'est très fort, cette parole que Jésus dit. Ce que Jésus dit sur la croix. Moi, c'est la résurrection, toi, tu restes à Marie. Hein ? Le voile qui se déchire. Voyez bien. L'assomption sera pour plus tard. Ça, c'est les lèvres eucharistiques qui s'ouvrent pour le baiser ardent dans l'humanité. Voyez ? L'Église. Donc, tout ça, on avait suggéré. Hein ? Alors, qu'est-ce qui reste ? Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Donc si la réalité de Jésus, crucifié et ressuscité, avec toute la gloire du Christ ressuscité qui spire dans la très sainte Trinité, n'est plus là, et qu'il vaut mieux que ça s'en aille, ça prouve que ce qui reste après est plus grand. Qu'est-ce qui est plus grand que la présence réelle, glorieuse, victorieuse, mystique, plénière, total de Jésus crucifié et ressuscité. Hein ? Qui peut me le dire ? Qu'est-ce qui est plus grand que ça ? Oui, il y a quelque chose de plus grand que ça. Oui. Oui, c'est vrai. La grâce sanctifiante. Et la grâce sanctifiante, c'est quelque chose de créé. Vous voyez ? Avec le sacrement, j'ai le corps mystique, eucharistique, sous le mode per modum substantié, par le mode de la substance du Christ ressuscité. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand ? Je vous ai fait hier, voyez, que l'Église, voyez, que l'Eucharistie, c'est le corps, on appelait ça le corps mystique, vous vous rappelez ? Jusqu'au XIIe siècle, corps mystique, l'Eucharistie, c'est le corps mystique. Le pape Paul VI fait remarquer que c'est à partir du XIIe siècle que petit à petit, on a dit corps mystique, c'est l'Église. Oui, c'est prodigieux ça. Comme petit. C'est ce que je voulais prendre avec vous comme thème, ce passage là entre les deux. Hein ? Alors. Qu'est-ce qui reste après ? On disait, vous voyez, on disait hier, je ne sais pas si vous vous rappelez quand on disait hier, qu'il y avait les cinq parties de l'Église, du corps mystique. Les cinq parties du corps mystique, c'est quoi ? C'est Jésus ressuscité, crucifié et glorifié, avec tous ses membres. Marie et, vous voyez, avec tous ses membres. Marie, la grâce, etc. Et puis, la très sainte Trinité, tout ce que vous voulez. Avec tous ses membres. Donc l'Église triomphante qui est au ciel, l'Église souffrante et l'Église militante. C'est évident que si nous avons réellement le corps de Jésus ressuscité, s'il s'en va, c'est pour qu'il demeure en nous. Il s'en va per modum substantié. C'est la transsubstantiation, c'est la substance même du corps ressuscité et crucifié et ressuscité de Jésus qui disparaît, il s'en va. Mais il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Il laisse quelque chose de plus grand. Il laisse quelque chose de plus grand, c'est-à-dire son corps mystique tout entier. Et le corps mystique tout entier de l'Église, Le corps mystique tout entier de l'Église, c'est plus grand, puisque c'est Jésus ressuscité, la tête, la médiation entre la tête et les membres, Marie est là réellement présente dans son Assomption, ainsi que toutes les âmes qui sont dans la vision béatifique sont là, réellement présentes, animant mon corps, eux qui sont dans la vision béatifique, animant ma chair. Toutes les âmes souffrantes sont là, du purgatoire. Toutes les âmes militantes de l'Église sont là. Le fruit de l'Eucharistie, c'est la charité. Et la charité, ça va très loin. Ça, c'est une prodigieuse lumière sur la manière. Alors, les gens communient, vous savez, et puis après. Alors que c'est l'essentiel. Tout le reste, gommez-le. C'est pour ça. C'est uniquement pour ça. Alors, et je ne suis pas attentif. Voyez, c'est extraordinaire la mutation qu'il y a entre le passage de la parole de Dieu au signe, le passage de la parole de Dieu au signe, ça veut dire le passage de la révélation au signe du pain, le passage du pain et du vin à travers l'offertoire. Dans le travail, à la communion, j'allais dire, c'est ce qu'on appelle l'offertoire, la préface, puis le passage du pain et du vin rassemblant tout le travail des hommes dans le sacrement, le passage d'une transubstantiation, à chaque fois, ici, il y a transformation, transfinalisation, transsubstantiation, au canon, consécration, transsubstantiation. Et puis après, il y a une dernière France, glorification. Si vous voulez. C'est la plus grande chose de l'Eucharistie. Vous savez que la substance, transactualisation, encore mieux, transactation, oui, puisqu'on avait dit l'acte, hein. Transintellectuel. Bon, enfin, allez, il reste plus que la rédemption, quoi. Et alors, quand Jésus, quand la substance, ce caractère substantiel du corps ressuscité de Jésus qui disparaît, c'est pour laisser quelque chose de plus grand. Parce que c'est évident que la substance, c'est quelque chose de plus grand, sa transfinalisation, si vous voulez. Et la substance, c'est plus grand que la forme. C'est sûr. Du formel. C'est vrai que l'Eucharistie c'est plus grand que l'écriture. On comprend ça. Mais on a besoin de l'écriture. Puis après, il faut qu'à travers l'écriture, toute notre peine, notre travail, nos efforts, etc., soient mis, vous voyez, toute notre adoration soit mise dans la patène. Et puis il va y avoir la substance. Il y a quelque chose de mieux que la substance qu'on a eu. La perfection de l'amour, la plénitude de l'amour. Donc le passage de la substance à la charité, c'est évidemment beaucoup plus énorme. Alors, c'est vrai qu'on est toujours très très attentif à la messe au moment de la transsubstantiation. On a raison, hein. Évidemment qu'on a raison. On est très attentif au moment de la communion. On a raison. C'est pas moi qui vais dire, il faut surtout briser ça, briser ton bœuf. Arriver à la messe plutôt les 5 dernières minutes, faites la cuisine, et puis arriver, hein, si la messe a commencé à 10h, arriver à 11h moins 5. Vous arrivez donc, et vous avez tout. Vous avez la fin. Et non, parce que, vous voyez, c'est très bien. Quelque chose qui ne va pas. Cette mutation qu'on appelle conversio, la conversion, c'est une révolution intérieure qui se fait par l'Eucharistie. Quand la substance du corps glorieux et ressuscité du Christ, qui est présent par mode de substance, per modum substantiae, disparaît, alors ça opère une révolution prodigieuse. Pas de nous, mais du sacrement. Il y a une conversion qui se fait. Puisque il n'est plus présent. Tu le comprends, ça, ou pas? Et là, il y a une révolution intérieure, une conversion, une mutation totale du sacrement dans la présence réelle, totale, mystique, par la charité, de tout le corps mystique. À travers mon corps, à travers mon cœur. C'est quand même assez extraordinaire. Alors, il faut que je sois présent à cette mutation, de Jésus à tout le corps mystique. Et je porte réellement tout le corps mystique. Réellement, réellement. Reste en tout. Bon, ça c'est de la théologie évidemment, hein. Reste signum, reste sacramentum, et puis reste en tout. Bon, eh bien. Allez bien, voilà ce que dit saint Thomas. Tertia pars, question 73 et question 74. L'effusion du sang et de l'eau par la plaie du cœur du Christ est le signe, signum, et la la source de l'Eucharistie. L'oblation et le sacrifice du pain et du vin par Melchisédek. Regarde, non, le signe, mais le sacramentum tantum. La manne dans le désert, avec Moïse. Regarde ce qui, dans l'Eucharistie, concerne la res tanto, res, l'agneau pascal de Moïse. Regarde dans l'Eucharistie ce qui concerne res et sacramento, le sacrifice. La res et sacramentum, vous voyez ce qu'on a à la consécration et à la communion, res et sacramentum, de l'Eucharistie, c'est le véritable corps du Christ. La res tantum, ce qu'il y a après la mutation dans la communion, pourquoi on vit de l'action de grâce. Eh bien la res tantum, c'est le fruit de celle-ci, c'est-à-dire la grâce qui nous rend présents vitalement, donc physiquement, puisque c'est vital, à tout le corps mystique du Christ ressuscité, souffrant et glorifié. Ça va? Et le sacramentum tantum, c'est la matière. Après, c'est le signum. Le signe, c'est la matière. Vous voyez ça? Eh bien, vous voyez, il dit ça à partir, vous l'avez vu, entendu vous-même, il dit ça à partir du côté ouvert du Christ, de Melchisédek, de la manne dans le désert, du sacrifice de l'agneau pascal. Vous voyez? On l'avait vu, j'allais dire, nous-mêmes, j'étais content en voyant ça ce matin, dire, ben au fond, on a fait la même chose, quoi. Au fond, c'est vrai, pratiquement. Voilà, il faudrait lire encore beaucoup d'autres choses sur l'Eucharistie, mais puisque on se réserve le point de vue donc de la Bible, je voudrais terminer par le point de vue donc ici de l'hébreu. Donc c'est l'agneau, c'est le pain, c'est la chair du Fils de l'homme. Vous voyez bien. Que l'agneau, c'est le sacrifice. C'est res et sacramento. C'est l'agneau de Dieu qui est sacrifié en holocauste pour nous. Est-ce que ça va? c'est le pain. La matière, le sacrement, et c'est la chair, c'est le corps. Ça va? Alors, en hébreu, c'est là ici que je voudrais vous faire une petite... C'est pas une récréation, mais... C'est là où je vais m'amuser un peu. Hop. Oui, c'est pour voir toutes ces subtilités de la révélation. Hein. Oui, il faut savoir, et c'est là que je voudrais vous faire un tout petit... Peut-être j'en ai déjà parlé à certains d'entre vous. Il faudrait faire maintenant toute la théologie mystique de l'Eucharistie à partir de l'alphabet hébreu. L'alphabet hébreu a 24 lettres. Et puis, donc, vous voyez, vous avez... La première lettre, c'est le Aleph. Bon, on ne va pas le mettre en majuscule, on va le mettre en écriture cursive. La première lettre, c'est le Aleph. Ça s'écrit comme ça, le Aleph. Notre A à nous, n'est-ce pas ? Vous voyez, c'est Dieu, ouverture à l'infini, ça exprime ça. Ça se lit de droite à gauche, l'hébreu. Vous écrivez, par exemple, Abba, Père. Hein ? Ça s'écrit comme ça, l'hébreu. Ça va ? Bon. Donc, Aleph. Aleph, c'est le A, première lettre de l'alphabet. La première lettre de l'alphabet est écrite ici, dans l'écriture cursive, par le point de vue divin, c'est-à-dire l'ouverture à l'infini, qui se rassemble par amour dans quelque chose qui est matière. Vous voyez ? La paix, au fond, si vous voulez, de la création. Dieu qui est infini, la créature. La créature, elle est créée, et elle bute, elle, qui vient de l'infini de Dieu, de l'amour de Dieu, tu sais, elle bute sur la transcendance de Dieu. C'est la lettre de l'adoration. Tout commence par l'adoration, l'admiration. Il faut être rempli d'admiration. Il faut être dans un état d'adoration. Remplissez d'eau ces jarres. Dans un état d'adoration. Faire oraison. Dans l'admiration. Transcendance de Dieu. Il faut vraiment. Vous voyez, je suis là, je bute sur le fait que Dieu est la transcendance. Et donc, vous voyez, il faut que, ici, moi qui suis là, je bute sur la transcendance de Dieu. Alors, du coup, je fais un culbute, vous voyez. Comme ça. Et je passe ici. Alors, à ce moment-là, deuxième lettre. Je viens ici. Vous savez, j'ai buté. La deuxième lettre, c'est le B, le bait, n'est-ce pas ? Il faut passer par l'adoration et passer par cette espèce de conversion qui réalise l'adoration, l'admiration. C'est la lettre du silence. Il faut comprendre qu'en hébreu, les lettres ont une signification théologique, une signification matérielle, une signification... biblique, une signification mystique. Il y a les quatre, à chaque fois. Traduire, ça fait partie de... Vous savez, l'enfant de 5 ans, chez les juifs, connaît toutes les lettres de l'alphabet avec toutes leurs significations. Littérales, humaines, bibliques et mystiques. Donc, je vous fais un petit travail pour les enfants de 5 ans. C'est pas ? Voilà. Alors, matériellement, si vous voulez, la lèvre, c'est le bœuf. Qui travaille silencieusement. Il travaille, attention. C'est le silence. C'est l'admiration. Michael, c'est le gardien du silence. Il admire, il adore. Michael. Elle, c'est Dieu. Bon. Alors du coup, vous voyez, si c'était vécu cette adoration dans l'amour, il ne reste plus que l'amour.
Et le bête, c'est la lettre de l'amour. Le bête. Au point de vue littéral, le bête,
c'est la maison. C'est pour ça que vous avez Bethléem, Bethsaïd, Bethphagé, tout ce que vous voulez. Enfin, tous les bêtes. Bethléem, où Jésus est né. Bethléem, la maison du pain.
Ah, voyez.
Léhem. La mèche, het, et même. Le pain. On le verra, tout à l'heure, justement, pour voir ce jeu extraordinaire entre le pain, la chair, l'agneau. Vous savez, puisqu'il y a un jeu de lait. C'est pour ça que je vous fais tout ça. J'espère qu'on y arrivera, parce que... Oh, il faut que je fasse les 24 à ce rythme-là, on y est. Il est 10h20 déjà. Il me reste 10 minutes. Ah, on a jusqu'à 11h. Bon, jusqu'à 11h. Ça va. Alors, donc ici, ça signifie la maison. La demeure,
le bête, c'est la demeure, c'est la maison. Mais on construit une maison nouvelle qu'à partir du moment où il y a un amour entre un homme et une femme. Il quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme.
C'est le fait d'avoir quitté son origine, d'avoir été plus loin grâce à l'adoration.
Ah, l'admiration au silence et à l'amour.
Et du coup, il y a la clôture de l'intimité dans l'amour entre l'homme et la femme et l'ouverture.
L'amour entre la femme implique la clôture de l'intimité et l'ouverture à la fille. C'est très beau, ça.
L'amour entre l'homme et la femme où il n'y aurait pas l'ouverture vers l'infini, c'est là.
C'est évidemment pas un amour humain.
Vous voyez ? Alors, hey, l'amour réussi, c'est pour ça qu'il y a les deux bras. Vous voyez, l'amour entre l'homme et la femme. Le secret
l'intimité. La clôture de l'intimité, c'est le foyer. Hein, c'est pour ça. Donc, vous voyez, Jésus, Marie, Joseph. Hein, c'est dans l'amour entre l'homme et la femme, Bethléem. Il y a la maison du pain.
Il ne peut pas y avoir Eucharistie, vous voyez, sans qu'il y ait l'adoration et sans qu'il y ait cette espèce d'amour entre nous.
Ils sont infinis grâce à la mort. Ensuite, eh bien, vous avez. Ah oui,
presque envie de le faire sauter, c'est le guimel, n'est-ce pas?
Guimel, c'est le chameau.
Oui, parce que
vous sentez bien, vous avez tout le paradis terrestre, et l'homme et la femme qui est là.
J'ai eu une petite intervention ici. Ah, l'amour entre la femme peut évoluer, n'est-ce pas? Alors, l'homme se redresse, la femme se redresse, n'est-ce pas? La femme se redresse, et du coup l'homme se replie sur lui-même. Alors ça donne ça. C'est le guillemets.
Ça veut dire chameau. Le chameau. Hein?
Mais en réalité, c'est quelque chose de positif. C'est cet amour, en s'ouvrant à l'infini, petit à petit, alors à ce moment-là, vous voyez, j'allais dire, il prend une très grande force. C'est le symbole, c'est la lettre de l'amour dans toute sa force. Et donc cette fois-ci, il va y avoir une division. S'il y a le péché, ça va impliquer le redressement de l'homme dans l'orgueil et le repliement sur soi. C'est le guillemets. Et dans l'homme et la femme, vous voyez, il n'y a plus tellement la clôture de l'intimité, ça devient une complicité dans le repli sur soi et dans l'autre.
Mais il y a en fait, ça exprime aussi et surtout le climat, la force. Vous voyez, par exemple, quand l'histoire des chameaux, hein, Rebecca, vous voyez, Rebecca, qui est la femme qu'on a donnée à Isaac, c'est au bord d'un puits. Tout est rencontre nuptiale au bord d'un puits. Et Rebecca fait boire les chameaux. Vous voyez, elle fait. Et Rebecca a donné d'ailleurs en dot, je crois, 10 chameaux, sauf erreur. Non, c'est Rachel qui a fait boire les chameaux. Enfin, peu importe. Il y a une des. Rebecca, c'est avec Isaac, et Rachel, c'est avec Jacob. Il y en a une des deux qui a apporté 10 chameaux comme dot. Ça veut dire que c'est la femme qui a. Vous voyez, qui a la. Donc, on dit la femme est médiatrice. Hein, la femme est médiatrice. La femme est médiatrice parce que la force de l'amour, l'intensité de l'amour, les 10 chameaux, hein, l'amour dans ses 3 dimensions les plus infinies, les plus divines, et dans ses 7 dimensions les plus humaines, les plus incarnées, celle qui en est porteuse, elle est médiatrice d'amour. Si une relation entre l'homme et la femme n'évolue pas, ça prouve que la femme n'est plus médiatrice. Et du coup, c'est pour ça que Rebecca apporte 10 chameaux. Mais, vous voyez, du coup, quand l'autre, je ne sais plus si c'est Isaac ou l'autre, bon, eh bien, apporte ses chameaux et demande à boire. Hop, on lui fait boire ses 10 chameaux. La femme fait boire, est-ce que c'est Rachel? Je crois que c'est Rachel. Qui fait boire les 10 chameaux de Jacob. Coup de foudre. Ça veut dire, premier coup de foudre dans l'écriture. Ça veut dire que si la femme est médiatrice, elle fait naître dans le cœur les 10 chameaux de Jacob. De Jacob. C'est-à-dire l'amour de Jacob se réveille d'un seul coup. Et il boit. C'est les 10 chameaux, c'est de la force de l'amour. Et c'est pour ça que Rebecca, pour susciter cela, vous voyez, quand elle arrive et qu'elle voit à travers le désert, là-bas, son mari, qui c'est celui-là, là-bas, ah, c'est Isaac, ah, c'est bon, très bien, et bien, elle descend de son château. Ça n'est possible que si la femme s'humilie, qui est cette femme. C'est comme ça. Enfin, oui, il faudrait regarder faire l'affiche sur les chameaux, c'est extraordinaire. C'est toute une théologie. Bon, vous comprenez bien, mais ici, c'est pareil. Qu'on dit sur l'homme et sur la femme, c'est valable aussi du mystère du Christ et de Dieu. Ah, l'Église est médiatrice d'amour. D'un point de vue de l'unité du corps mystique, je suis pour nous respectons. Alors, vous voyez, c'est quand même très très fort tout ça. Ensuite, ah, alors, du coup, on ne reste pas à deux. Il faut que ça aille un peu plus loin. Alors, vous avez le Dalet. Le Dalet, c'est la porte. Dalet, non, mais essayons de comprendre le Dalet. Le Dalet, c'est de toute façon le chiffre de l'accueil. C'est la porte. Quand on aime, il faut arriver à saisir dans l'autre, à saisir en moi le lieu où je peux accueillir l'autre. Il faut ouvrir les portes. Il faut ouvrir les bonnes portes. Et dit Jésus, n'entrez pas par la fenêtre, n'entrez pas par la porte. Celui qui entre par la fenêtre, c'est un voleur. Entrez par la porte. C'est-à-dire, vous voyez, entrez par la bonne porte. Par les bonnes portes. Vous pouvez ouvrir plusieurs portes. Abraham avait une tente à 1000 portes. Ça veut dire qu'il était disponible de tous les côtés. C'est accueillant. C'est pour ça que la Sainte Trinité, c'est là, c'est Dalet. 1000 dalets. Pas mal ça. Hey, dalets, je suis la porte. Et oui, c'est vrai, je suis la porte. C'est la disponibilité, la croix du Christ. La croix du Christ, c'est cette espèce d'ouverture, de disponibilité, d'attraction. Vous voyez ? Alors, ici, vous avez ici, à l'intérieur, une première fécondité, qui est exprimée par cette petite boucle qui est là. Ça fait en même temps charnière, vous voyez ? Et puis en même temps, les rabbins. Comment